Aujourd'hui, j'ai le dernier message sur la série qu'on a commencée il y a quelques semaines antérieures, sur le retour de Jésus, les signes qui doivent s'accomplir. Moi, je vous encourage à aller réécouter ces choses-là pour comprendre le plan de Dieu dans son ensemble. Aujourd'hui, pour terminer, ça va être un survol des prophéties majeures, les prophéties bibliques depuis le temps de Jésus, puis en même temps, des encouragements du Seigneur. Parce que quand on regarde en faisant le point où ce qu'on en est rendu, là, ce qui s'est passé dans l'histoire, nous, on est comme dans un sens privilégié d'être là à la fin pour voir les choses qui sont arrivées. Les premiers disciples, eux autres, ils entendaient le Seigneur parler, puis il y avait des révélations du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas vu toutes les promesses s'accomplir. Ils n'ont pas vu toutes les prophéties s'accomplir. Bien, nous, on en a vu un paquet. On va juste en regarder quelques-unes pour faire le point comment est-ce que c'est Dieu qui contrôle l'histoire comme qu'il l'a dit. C'est ça qui est le but. Si Dieu il a pris la peine de nous avertir d'avance sur les choses qui doivent arriver, c'est parce que il voulait que nous qui avons vu ces choses, on les a lues, puis on les a vues, on a confiance, on va avoir plus confiance en Dieu. On s'attend dans le dernier sprint final, parce qu'on est dans le dernier sprint final des nations. Puis je pense que ça va être un des pires de toute l'histoire de l'humanité. Il y a des événements qui sont écrits que ça s'est jamais produit avant ce genre d'événements-là qui vont se produire à la fin. Quand Jésus va, juste avant que Jésus revienne, dans la tribulation qui va être là, que les chrétiens vont être là. Puis Jésus nous avertit d'avance puis il nous a même donné des encouragements à faire certaines choses pour être sûr qu'on va avoir la force de passer à travers le dernier sprint. C'est un récapitulation des grands événements qui sont arrivés à partir de la résurrection de Jésus, parce que déjà avant l'histoire de Jésus, c'était à prophétiser les grandes lignes de l'histoire de Jésus, puis même sa mort et sa résurrection, c'était à prophétiser. Ça, on le sait, on en parle souvent, mais les choses après. Les grandes prophéties ont commencé premièrement par l'effusion du Saint-Esprit de Dieu à la Pentecôte. Ça a été la naissance de l'Église. Jésus a averti ses disciples. Attendez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit, va venir sur vous, puis vous allez être mes témoins. Ils se sont mis à prier. Ils l'avaient pas encore vu, ça, ces accomplissements-là. Mais ils ont prié, bing, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. 3000 personnes s'est converties ce jour-là. C'était le départ de l'Église du Seigneur. C'est une grande prophétie qui est annoncée dans l'Ancien Testament, plus annoncée dans le Nouveau par Jésus lui-même. C'est des prophéties. Pour ceux qui ne savent pas, là, une prophétie, c'est pas juste ça, mais une des parties des prophéties, c'est de parler de la part de Dieu pour annoncer des choses à venir. Ça, c'est une des choses qu'on retrouve dans la prophétie. Fait que dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé pour annoncer qu'il arrivera telle affaire, puis ça s'est accompli comme ça l'a été dit. En plus, ça s'est accompli la journée de la Pentecôte, qui est encore un autre exemple de la grandeur de Dieu, comment est-ce qu'il contrôle les choses, hein? Parce qu'il fallait que ça arrive pendant la fête de la Pentecôte, qui est la première récolte. Cette journée-là, la fête de la Pentecôte, c'est la première récolte. Puis ça a été la première récolte du Seigneur pour les 3000 âmes qui se sont converties. La journée même de cela, c'est vrai. C'est Dieu qui contrôle les événements. Ayez confiance que Dieu est là puis il contrôle toutes choses. Amen. Dans Joël, la prophétie disait, dans Joël 2:28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards ont des songes, vos jeunes gens ont des visions. » Ça, c'est une prophétie de Daniel qui s'est accomplie dans Acte 2. Si vous irez lire Acte 2, puis la prophétie est plus longue que ça, c'est juste parce que je fais un survol. Allez lire ça, puis vous allez voir les choses que Dieu a dit qui se passeraient une fois que le Saint-Esprit sera répandu. Il n'a jamais été répandu comme cela que depuis ce moment-là. Puis depuis 2000 ans, le Saint-Esprit est répandu, puis il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Puis si vous n'avez pas encore vécu l'expérience du baptême du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sauvés. Mais vous pouvez rechercher et aspirer à cette deuxième expérience-là. Parce que naître de nouveau, ça en est une. Mais baptisé du Saint-Esprit, ça en est un autre. Quand tu nais de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit, ta vie commence à changer, mais tu n'as pas nécessairement les dons spirituels en commençant. Des fois, c'est une deuxième expérience. Je l'ai vécu en deuxième expérience, puis il y en a qui l'ont vécu en se convertissant. Mais si vous n'avez pas vécu ça, allez lire les actes, puis demandez au Seigneur de vous le donner. Attendez-vous à ce qu'il vous le donne. Vous allez vivre la puissance de Dieu dans les dons que Dieu donne quand tu es baptisé. Il se passe de quoi? Il y en a qui parlent en langue, prophétisent, des dons de guérison, de miracles, toutes sortes de dons qui peuvent se manifester. C'est dans la Bible, c'est une promesse de Dieu. Puis il dit ça va être là, dans cette promesse-là, dans les actes, il dit ça va être là jusqu'au retour de Jésus. Jusqu'à temps que Jésus revienne. Fait qu'il n'est pas revenu cet encore-là. Puis on voit dans la Bible, les deux témoins vont marcher dans la puissance de Dieu avec les signes, les prodiges, les miracles, comme au début dans les actes. Fait qu'attendons-nous à voir la puissance de Dieu à l'œuvre encore qui va se manifester. Ça s'en vient, frères et sœurs. Dieu, il a un plan. Il contrôle les événements comme qu'il les a annoncés. À partir de ce moment-là que les gens se sont convertis, la fondation de l'Église est un rétablissement de l'Israël de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent du peuple d'Israël, qui est le peuple choisi. Mais faut discerner qu'il y a l'Israël selon la chair, les descendants directs d'Abraham, Isaac, Jacob. Jacob a eu 12 fils qui ont été les 12 tribus d'Israël. Mais ils appartiennent pas tous à Dieu. C'est l'Israël selon la chair. Mais il y a un groupe qui s'appelle l'Israël de Dieu, celle qui obtient les promesses, celle qui va être sauvée. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont descendants d'Abraham, selon la chair, qu'ils sont automatiquement l'Israël de Dieu. Ça, tu le deviens par la foi. Puis ça nous dit cela dans Romains chapitre 11, le verset 25 et 26, car c'est Paul qui parle, il dit « Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous vous regardiez point comme des sages. » C'est que c'est une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement, parce qu'il y en a une partie qui ont cru. Il y a une partie qui sont tombés dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et ainsi tout Israël sera sauvé. Fait que là, tout Israël, l'Israël de Dieu, sera sauvé, formé de juifs qui se sont pas endurcis et de païens qui sont greffés au cèpe qui est Jésus-Christ. En Jésus, nous autres, on est des païens, on était des oliviers sauvages. J'explique pas tout, mais c'est des grosses prophéties, ça. Qu'à partir du moment où l'Église était formée, il y a des Juifs qui ont cru aux promesses de Dieu, puis ont reçu le salut. Les autres se sont endurcis. Ça a permis que nous, les païens, on entende l'Évangile, puis nous, on était greffés. On était des oliviers, des branches d'oliviers sauvages, puis on était greffés à l'olivier franc. On participe à l'huile de l'olivier, qui est le Jésus qui est le cep. En Jésus, nous sommes devenus l'Israël de Dieu, le peuple de Dieu. C'est tout ce que je vous ai expliqué à propos de la ville sainte puis le peuple d'Israël qui va être là, mais c'est ceux qui ont été sauvés, les ressuscités, les greffés, pas les seuls nécessairement selon la chair. Parce que Jésus, à des moments, à des gens, il a dit... Il y en a qui disent, nous autres, on est des fils d'Abraham. Il dit, si vous seriez fils d'Abraham, là, ben, vous m'aimeriez. Puis il dit, vous avez pour père le diable. Jésus a dit ça à des Juifs Jésus ne reconnaissait pas que ces Juifs-là étaient du peuple d'Israël, des sauvés de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des Juifs non sauvés, puis il y a des Juifs sauvés. Mais ça l'a permis le rassemblement du peuple de Dieu, qui était des promesses dans l'Ancien Testament. On a été greffés, puis on est maintenant des Juifs spirituels. Parce qu'on a été circoncis du cœur, puis on suit Jésus. Amen. Dans les grandes prophéties majeures qui sont comme le calendrier de Dieu, parce que ces choses-là, même si les détails des prophéties sont écrits dans l'Ancien Testament, c'est quand même l'horloge de Dieu. Il dit, quand vous verrez cela, là, on sait que Dieu est tout en contrôle, mais on sait pas nécessairement la chronologie des événements au complet. On sait pas tout. mais on les voit s'accomplir une par une. Fait qu'une autre grande prophétie qui s'est passée juste un petit peu après la mort de Jésus, Jésus en avait parlé de cette prophétie-là, puis c'est encore le peuple juif qui devait être comme le dans le cadran de Dieu. C'est cet événement-là, parmi les Juifs, voudra dire que Jésus revient bientôt, mais Jésus avait averti d'avance, ça arriverait. C'était la destruction du temple des Juifs. À l'an 70, par l'empereur romain, que lui, Rome, là, il en avait assez des Juifs, puis ils ont été amenés par Dieu. Il ne faut pas penser que c'est hors de contrôle de Dieu. Rome est amenée par Dieu à raser ce territoire-là, puis vous allez comprendre pourquoi, parce que Jésus l'a expliqué dans le verset que je vais vous lire. Jésus, dans ce verset-là, il dit dans Luc 21, verset 6, que c'est annoncé, que ça arrivera. « Les jours viendront où ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il est en train de regarder le temple. Puis là, c'était super beau, les ornements, puis toutes les offrandes que le monde avait données, des objets en or, toutes sortes d'affaires. C'était super beau. Les disciples disent à Jésus, « Hey, regarde la beauté de ce temple-là. » Puis Jésus dit, « Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » C'est arrivé quelques années après la mort de Jésus, à l'an 70, où ce que le temple était complètement détruit. Les Romains ont tout volé le stock, ils ont fait brûler toutes les... Puis pas juste le temple, la ville au complet, puis ça avait que c'était annoncé. Qu'en même temps, Jésus, dans d'autres passages, dans le même chapitre, là, il en parle qu'il y aurait la destruction de la ville de Jérusalem, puis en plus, il y aurait une dispersion des Juifs parmi les nations. C'est que les Juifs n'ont pas de leur capitale. Parce que Jérusalem, c'est la capitale du peuple juif. La capitale a été rasée par l'Empire romain, détruite. Les Juifs ont tous été dispersés à travers des nations. Puis ça avait été annoncé d'avance par Jésus. On regarde ça dans Luc chapitre 21, le verset 22 et 24. Puis vous allez voir que c'était en contrôle par la main de Dieu dans ce verset-là. Jésus, quand il explique la destruction de Jérusalem, il dit, ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ça veut dire que c'est des prophéties de l'Ancien Testament qui s'accompliraient, puis que le temple serait détruit, la ville serait détruite, puis les Juifs seraient dispersés. Puis c'est un jour de vengeance, c'est un jour de punition que Dieu a fait à Israël. Pourquoi? Ben c'est une entre autres que je peux vous dire tout de suite. Ils l'ont demandé eux-mêmes que ça leur arrive, les Juifs, mais sans s'en rendre compte. Quand ils ont crucifié Jésus, ils ont dit « Que son sang retombe sur nous et nos enfants. » Puis ils ont même dit, Jésus leur a dit « Combien de fois j'ai voulu vous rassembler? » Puis il dit « Vous ne l'avez pas voulu. » Ils lapident les prophètes, ils tuent les prophètes, ils ont même tué le Fils. Fait que c'est un jour de vengeance de la part de Dieu pour les punir de leur rejet du Messie. Ils ont été dispersés à travers les nations. Il y en a d'autres idées que j'aurais pu vous sortir, mais là, je veux pas passer le plus que le temps qu'on est supposé. Je fais juste un survol pour vous démontrer que tout ce qui arrive dans les grands événements, même l'Antéchrist, c'est annoncé d'avance. Il va venir, puis ce qui va se produire, c'est pas hors de contrôle de la main de Dieu. C'est tout prévu, puis ça va tout s'accomplir, afin que s'accomplisse ce qui est écrit. C'est ça qui est écrit dans le texte. C'est des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Tout ce qui est annoncé prophétiquement dans la Bible, toutes les promesses, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point que tout cela n'arrive. Fait que tout ce qu'on voit dans la Bible doit s'accomplir comme c'est écrit, puis ça peut pas, même si on criera, qu'on toussera, qu'on fera tout les temps, là, puis qu'on se rebelle, qu'on fera des pancartes, mais on veut pas que ça arrive, ça va arriver pareil. Parce que c'est pas nous, c'est Dieu qui a décidé, fallait que ça se passe comme cela. Fait qu'il y a un grand plan dans l'histoire qui s'accomplit, puis c'est le plan de Dieu. Puis il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Quand on lui dit qu'on lui a donné notre vie, on lui fait confiance, puis on s'attend à ce qu'il nous emmène ou ce qu'il doit nous amener, peu importe l'issue. Jésus est emmené à la mort. Oups, Dieu, as-tu perdu le contrôle? Pas du tout. Fallait que ça se passe de même. Les 12 apôtres, ils ont été tués, crucifiés, torturés. Dieu, as-tu perdu le contrôle? Non. Fallait que ça se passe comme cela. Dieu, il fait ce qu'il a décidé, puis il fait ce qu'il y a de meilleur pour enrichir son peuple. On comprend pas toujours pour comment ça se fait qu'il nous fait passer par des épreuves de même. Mais Dieu a son plan, puis Dieu est glorifié quand on soumet, qu'on accepte, puis on avance. Tout ce qu'on a besoin, c'est la force pour pouvoir passer à travers ce à quoi qu'on est destiné. Amen. C'est ça la confiance, c'est ça la foi. Parce que dire, j'ai la foi en Dieu, mais on veut tout faire selon notre manière, comme qu'on veut, puis atteindre nos buts, nos objectifs, on est en train de marcher dans rébellion et non dans la soumission. Jésus a appris la soumission, les apôtres aussi, nous aussi, faut apprendre à soumettre à Dieu, puis on fait confiance que Dieu, il a notre vie entre ses mains. Il l'a dit, Jésus, nul les ravira de ma main, puis nul les ravira de la main de mon Père, mais on peut débarquer, par exemple, mais on veut pas débarquer, on veut rester dans sa main. Amen. Il dit, ce sont des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Puis là, il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, ça c'est dans le pays d'Israël, et de la colère contre ce peuple. C'est Dieu qui est en colère contre ce peuple parce qu'ils ont rejeté leur Messie. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Jésus a dit que les Juifs seront emmenés captifs parmi toutes les nations. C'est ça la dispersion qui ont vécu. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire que Dieu avait prévu une longue période de temps que ce soit tout le temps des nations que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Fait que pendant 2000 ans que la ville de Jérusalem, c'est d'autres nations qui vivaient dedans, cette ville-là. Que les Juifs étaient plus en possession de leur terre promise. Faut pas oublier que Dieu l'avait promis à Abraham que ce territoire-là appartiendrait à sa descendance. Puis pendant 2000 ans, les Juifs étaient plus dans leur terre promise. C'était le plan de Dieu en punition, puis il a prévu que ça durerait tout le temps de l'histoire humaine. Pour vous montrer encore comment est-ce que Dieu a tout en contrôle, on est dans l'époque présente, là, témoin de ce que Dieu dit est vrai, de ce que Dieu dit c'est vrai. En 1948, le 14 de mai 1948, il y a eu le retour des Juifs à Jérusalem en 1948. Ça fait pas longtemps, là. On est en 2020, là. Ça fait quoi, 80 ans? 60, après 80. Ça fait pas longtemps que les Juifs ils ont repris possession de Jérusalem par une guerre, par des traités. Il y a tout un cheminement, puis ils appellent ça le mouvement sioniste. Les Juifs retournent à Sion, qui est Jérusalem, la ville qui appartient à Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout lui appartient, puis il l'avait donné à la descendance des Juifs, du peuple juif à travers Abraham. Les Juifs, ils devaient prendre possession de la terre promise, et ce territoire-là, le commencement du retour à reprendre possession, selon les prophéties bibliques, ça se refait tranquillement, c'est en train de s'accomplir. Ça faisait 2000 ans que les Juifs n'étaient plus là. C'est quelque chose. Ça vous montre comment Dieu tient les choses dans sa main. Là, je vous parle des grandes lignes. Je vous parle pas des petites affaires, mais les grandes lignes. C'est ça le calendrier de Dieu. Que à la fin, il dit, regardez bien le texte qu'on vient de lire. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Ça veut dire, tout le temps que les nations devaient vivre le trip sur la terre tout seul, les nations vivent le trip sur la terre, Dieu a laissé Jérusalem foulée aux pieds. Jusqu'à temps que Dieu décide, c'est fini là, le temps des nations. Je mets un terme, les Juifs vont reprendre possession, puis le fait qu'il ait repris possession de Jérusalem, ça démontre que le temps des nations il est fini. Ça veut dire qu'on est rendu dans l'horloge de Dieu, que le temps des nations, là, c'est fini. On est sur le bord de voir l'accomplissement de toutes les dernières prophéties qui vont s'accomplir, on en a un paquet, ça va être une grande tribulation sur la planète. Quelque chose de grave. On le sent un peu, là, que la COVID, mais c'est rien comparé à ce qui va arriver dans pas long. Je vous le dis. Mais c'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui vous le dit. Oui. En 1948, il y a un texte de la proclamation d'indépendance prononcé par David Ben-Gourion, premier chef de gouvernement de l'État d'Israël. Ça l'accomplissait une prophétie. Ça s'est fait en une journée, cette victoire-là. Puis dans Isaïe 66:8, il y avait une prophétie qui disait « Qui jamais a entendu une pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? » Mais c'est ce qui s'est produit cette fois-là, par une victoire que le peuple d'Israël a gagnée d'une guerre qui n'a pas duré longtemps. Ping-bang, dans tout, ils ont reçu le pays, puis ils sont redevenus un pays comme sur la map. Parce qu'avant, ils n'étaient plus sur la map, ils étaient dispersés. Là, ils sont revenus comme un pays, comme si ça recommençait. Le plan de Dieu est en train de se remettre en place. Ben, c'est pas qu'il l'avait échappé, mais c'est parce que c'est le plan de Dieu que ça se passe comme cela. Fait que les événements se placent quand Dieu décide, c'est le temps. Amen. C'est ça qui est important de lire les prophéties. On lit les prophéties pour être conscient que Dieu mène l'histoire. Puis ça va nous donner de la confiance puis de l'assurance. Nous sommes maintenant à la fin. Déjà, parce que là je vais parler des choses qui se sont passées dans le passé. Là, je vous parle des choses qu'on est rendues là. Déjà, on voit l'installation du gouvernement mondial. Bon, on le sait que ça s'en vient. Puis ceux qui veulent plus de détails, allez réécouter mes prêches. J'ai parlé des prêches sur tous les grands thèmes. J'en ai parlé depuis, c'est mon 30e message sur la série présentement. Allez réécouter ça. Vous allez grandir dans la compréhension du plan de Dieu dans tout cela. On est rendu à la fin, là. Le temps des nations est fini. On voit que le gouvernement mondial est en train de s'installer. La Banque mondiale, c'est pas pour rien qu'ils appellent ça une Banque mondiale. C'est pas pour rien qu'ils appellent la santé, l'OMS, là, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a toutes sortes de départements qui s'installent de même, qui sont en contre. Ils cherchent à développer un gouvernement qui va contrôler toutes les avenues de la planète. Que ce soit la bouffe, que ce soit la pollution, que ce soit l'armement, la défense, là, que ce soit tous les sujets, il y a des organisations mondiales qui s'installent, qui déjà ils ont une influence sur la planète, puis ils nous contrôlent dans certaines affaires. Je dis pas chaque décision qu'ils prennent qui est mauvaise, mais le point est que c'était prévu et annoncé d'avance. Puis là, on voit l'installation, ça devrait nous dire, « Wow, on est dans le plan de Dieu, c'est en train de se faire, puis Jésus est à la veille de revenir. » On devrait tous être excités de voir ça. On devrait être tout heureux de voir que la Bible est vraie. On voit des choses se mettre en place. Ça fait 40 ans, je suis chrétien, ça fait 40 ans qu'on en parle, que Jésus revient, puis qu'il va avoir la marque de la bête, puis tout le kit, puis là, on est en train de voir les choses s'installer. On arrive. Lors de l'apparition de ce faux Messie-là, parce qu'ils vont avoir un personnage qui va être comme une personne attendue, qui vont penser que c'est un Messie. Déjà, il y en a qui se pensent des Messies, là, quelque part. Je veux pas peser sur les noms qui se véhiculent présentement, là. Mais déjà, il y a du monde qui propose des idées pour contrôler la planète. Vous n'avez sûrement déjà entendu, il y a plein d'affaires qui circulent, des idées qui circulent. Puis quand ce personnage-là va prendre le contrôle puis qu'il va s'installer pour contrôler la planète, parce qu'il va en avoir un qui va être l'antéchrist, qui va être le faux prophète. Il va avoir un faux prophète avec cet antéchrist-là, puis lui, ça va être un faux messie, un faux sauveur. Tous les gens de la Terre vont tout être en admiration de cette super puissance mondiale-là qui va se développer. Ça dit dans Apocalypse 13:8 que tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est fort. Ils vont tellement être fiers de cet accomplissement-là, puis de tout ce que les possibilités que ça peut faire, que les habitants de la terre vont l'adorer, sauf les chrétiens. Sauf les chrétiens. On n'adore pas les humains. On adore Dieu. Puis on ne met pas notre confiance dans un homme comme le de penser Messie. C'est Jésus le Messie. Il n'a pas d'autre que lui. Nous, nous servons le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. On ne sert pas d'autre humain. On est soumis à des lois qui sont là, comme dans le temps de Jésus. Il y avait les lois romaines qui étaient là, en plus des lois juives. Puis le monde se soumettait, mais on ne se prosternera pas devant eux autres et tomber en amour avec ce gars-là quand on sait qui c'est. Parce que la Bible, elle dit qu'il va être animé de plein de démons, puis il va contrôler le monde dans sa perdition. Puis tous ceux qui vont embarquer à se faire marquer puis à se faire contrôler par le système qui va être en place, un système monétaire, sont perdus à tout jamais. Il n'y a pas moyen de se convertir une fois que tu as reçu la marque de la bête. Fait qu'il faut rester vigilant pour embarquer là-dedans. Il dit, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ceux qui ont reçu le nom, ils ont reçu Jésus, puis que le nom, ils sont inscrits dans les cieux parce qu'on est des sauvés, on n'acceptera pas ce gouvernement-là. On n'a pas eu le choix de subir les conséquences de ne pas l'avoir accepté, mais on ne l'acceptera pas. Puis on va dire non à cela, même au quitte de se ramasser en prison ou de se faire couper la tête. Parce qu'il y en a, ça le dit, qui vont être décapités à cause de la marque de la bête. Je ne sais pas comment est-ce que ça va être dans chaque pays, mais il y a des gens qui ils vont le vivre. C'est pour ça que ça prend de la foi pour aller jusqu'au bout à servir le Seigneur. Peu importe ce qui arrivera, le Seigneur en premier. Amen. Hein? Oui, on l'est déjà vainqueur. Puis il faut rester dans la victoire. Il ne faut pas laisser l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité nous influencer, comme le verset j'ai dit au début. Il ne faut pas laisser les choses du monde et ses problèmes nous écraser, nous abattre, puis dire « moi, je lâche tout ». Non. Malgré tout ça, on aime l'amour, on aime le Seigneur, puis on est prêt à aller jusqu'à la mort pour lui. Amen. Je n'ai pas entendu gros d'amen.
Amen.
Amen. Son règne à l'Antéchrist va durer 3 ans et demi. Il va y avoir des grands fléaux qui vont s'abattre sur la terre durant son règne. Ça, lorsqu'on voit dans l'Apocalypse, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 tonnerres, les 7 coupes qui sont écrites dans l'Apocalypse, ça va s'abattre dans cette période-là de 3 ans et demi de temps. Il y a plein de cataclysmes qui vont arriver, des cataclysmes naturels, plus des problèmes mondiaux à cause des pandémies. Il en parle de pestilence, mais il y a d'autres mots comme peste, famine, tremblement de terre, ça c'est des naturels, des guerres. Il y a toutes sortes d'affaires qui vont arriver, qui vont avoir un grand nombre de monde sur la planète qui vont périr par les guerres qu'ils vont avoir dans cette période-là. Avec l'armement qu'ils ont aujourd'hui, là, ça prend pas un gros effort, tu payes 5 pitons, tu viens d'éliminer 2 millions de personnes, rien que d'une shot. Il va y avoir dans cette période-là aussi, de ces 3 ans et demi-là, une persécution massive des chrétiens et des juifs par le gouvernement mondial. C'est ça, je vous dis, ça sera pas facile. Dans Apocalypse 12-17, ça dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Ça, c'est la femme qui est juive, qui a enfanté l'enfant mort qui est Jésus. Ça représente le peuple juif. Puis il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, puis à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est pas que les Juifs qui vont se faire persécuter, c'est ceux aussi qui ont le témoignage de Jésus. C'est qui? C'est nous. On va être là. Puis on va être un témoignage dans cette période-là. Mais il va y avoir une persécution massive, tout dépendant du pays où ce que t'es, il y a des pays que ça va être pire que d'autres. Ça dépend des lois internes du pays, mais je sais qu'il va y avoir des conséquences, beaucoup d'efforts passés à travers ces choses-là. Parce que la Bible, elle dit dans un autre passage que les Juifs deviendront une pierre lourde pour les nations, puis ils vont se faire attaquer par toutes les nations. Dans Zacharie 12:3, ça dit, « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle, contre Jérusalem. Donc, il fallait que les Juifs soient en possession de Jérusalem. Donc, on voit que dans le calendrier de Dieu, Dieu avait prévu que les Juifs reprennent possession de Jérusalem. Puis, à la fin des temps, les nations vont se rassembler encore pour refaire la guerre à Jérusalem, pour combattre contre elle. C'est là que la Bible nous dit, dans un autre passage, que pendant que les Juifs vont être en train de se faire massacrer, Jésus va revenir avec son armée, puis il va détruire cette armée-là de l'Antéchrist, puis toutes ces nations-là. Il va être détruit par l'éclat de son avènement, le feu qui sort de sa bouche. C'est sa puissance, c'est par la puissance de Dieu qu'ils vont être anéantis, puis tu n'entendras plus jamais parler de cet Antéchrist-là, puis ce faux prophète-là, parce qu'ils vont être jetés dans l'étang de feu, direct, sans passer par le jugement dernier. En même temps qu'il va y avoir la persécution puis le contrôle du monde, les cataclysmes qu'il va y avoir sur la terre, mais il va y avoir un grand réveil qui va se produire. Le salut des âmes vont se faire. Parmi les Juifs, premièrement, que ça nous dit, premièrement, que les Juifs vont se convertir. Il va y avoir beaucoup de Juifs qui vont se convertir parce qu'ils vont reconnaître le vrai Messie qui était Jésus. Aujourd'hui, ils attendent encore le Messie. Ils n'ont pas reconnu que Jésus, ça l'était le Messie. Puis ils persistent dans cette idée-là tant que l'Esprit de Dieu ne vienne pas pour pousser un réveil dans leur cœur puis les changer d'idée. Dans Zacharie 12:10, qu'on voit ce passage-là, Dieu parle, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, puis ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, puis ils pleureront amèrement sur lui comme on a pleuré un premier-né. Voyez-vous, Dieu va envoyer un esprit de grâce et de supplication, puis les Juifs vont réaliser, « Hey, Jésus est le Messie », puis ils vont pleurer de voir qu'ils ont rejeté Jésus pendant tant de siècles, puis ils vont se repentir, puis ils vont se tourner. Dans l'Apocalypse, ça nous parle de cette image-là, dans les 144 000 qu'on voit dans la Bible. Les 144 000 Juifs des tribus d'Israël qui vont être là comme une armée du Seigneur pour servir le Seigneur pendant le règne de l'Antéchrist. Ça s'en vient, ces choses-là. Il faut l'attendre, ce réveil-là. Mais il n'y aura pas un réveil parmi les Juifs. Il va y avoir aussi un réveil dans les nations, malgré la pression que le gouvernement mondial va mettre sur la planète, malgré l'opposition aux religions, parce que dans cette période-là, ça dit que l'Antéchrist, il va s'opposer à tout ce qu'on appelle Dieu puis ce qu'on adore. Il va même aller s'asseoir dans le temple de Dieu puis se proclamer Dieu. Fait qu'il va s'opposer à toute forme de religion sur la planète. Puis il va se dire que c'est lui qui est Dieu. Ils vont être enflés pas à peu près. Mais dans cette période-là, ils vont interdire le monde de croire, mais Dieu, lui, va envoyer son esprit pour amener du monde à repentance. Parce que c'est pas le diable ni l'Antéchrist qui mène, c'est Dieu qui mène. C'est Dieu qui décide de faire selon son plan. Puis vu que ça a été écrit et prophétisé, ça va s'accomplir, puis ça s'en vient bientôt. On voit dans la Bible les deux témoins, puis les deux chandeliers, ça représente deux églises. Ils vont être deux groupes qui vont être d'évangélisation dans ce monde, puis il va y avoir une multitude qui va se convertir. On voit ça dans l'Apocalypse chapitre 7, verset 14. Puis là, ça nous parle d'une multitude qui se tenait devant le trône, puis qui avait été sauvée. Puis là, Jean, quand il avait la vision, il a dit, « Où est-ce qu'ils deviennent, cette gang-là? » Puis là, l'ange lui dit, lui, il dit à l'ange, « Mon Seigneur, tu sais, il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, puis ils l'ont lavé, ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. C'est du monde qui vont se convertir, une multitude qui va se convertir. » La Bible, dans ce passage-là, elle parle d'une multitude innombrable, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Qui vont se tenir devant le trône parce qu'ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau, qui ont été sauvés, c'est comme nous qu'on a été sauvés par le sang de Jésus, mais ils vont être dans la période de la grande tribulation. Fait qu'il va y avoir des gens qui vont travailler à l'évangélisation, puis il va y avoir la puissance de Dieu qui va s'étendre, puis il va y avoir une multitude qui va être sauvée. c'est le temps, là, on est dans le temps de prier puis de semer, puis dans pas long, on va commencer à voir la puissance de Dieu à l'œuvre parce qu'on sait qu'on est dans les derniers temps des nations, dans le dernier sprint. L'Antéchrist a veille de se pointer, puis tout ça, ça va s'accomplir. Puis ça, les deux témoins, ils vont marcher dans la puissance de Dieu par des signes, des prodiges, des miracles, puis ils vont avoir un grand impact sur la société. Puis ça, ça dit que l'Antéchrist, il va les haïr, puis il va leur faire la guerre à ces témoins-là. Mais faut pas se laisser apeurer par les choses négatives qui vont être contre les chrétiens. Il faut être plutôt encouragé et fortifié de ce que Dieu nous a tout montré d'avance pour qu'on soit prête, que quand ça va arriver, on soit dans la force, dans la puissance de Dieu pour passer à travers ces événements-là. Dieu, il nous dit pas ça pour nous abattre. Il dit ça pour qu'on prenne courage. Parce qu'il donne aussi les moyens pour y arriver. Puis on va le voir dans la suite de ce que je vous apporte un matin. Après, là, ce mouvement de réveil-là, puis cette grande persécution-là, puis la guerre qui va se produire aux Juifs, Jésus va revenir, puis ça, ça va être l'enlèvement de l'Église. Puis ça, c'est l'événement à ne pas manquer. Ça se produit une seule fois. Il n'y a pas « Attends une minute, je vais revenir demain. » Non, cette journée-là, il faut que tu sois prête. Puis c'est pas cette journée-là, il faut que tu sois prête. Il faut que tu sois déjà prête avant pour que quand ça arrive, tu pars. C'est pas comme les cinq vierges folles qui ont resté là, puis ont essayé de cogner par après, puis ont pas pu rentrer. Celles qui sont prêtes, ils vont monter, les autres, ils vont rester là, puis ils vont tous subir la colère de Dieu. Le salut, c'est tranchant comme ça. Tu marches par la foi, tu marches par la foi. Tu marches pas par la foi, puis marcher dans les doutes, dans les craintes, dans les peurs, puis dans la désobéissance, puis dire, oh, c'est pas grave, une fois sauvé, trop sauvé. C'est pas de même, ça marche. Faut que tu persévères dans la foi, puis ta foi va être vécue avec le Seigneur. Tu vas voir du fruit dans ta vie, puis tu vas être prête. Quand t'es de même, t'es prête. Si t'es pas de même, tu seras pas prête. Pis c'est pour ça qu'on est dans préparation. Pis c'est pour ça qu'il nous met tout ça devant nos yeux aujourd'hui pour qu'on se prépare. On est une épouse qui se prépare pour son époux. Ben, je vais le lire tantôt, ça s'en vient. Sachant que les temps durs qui arriveront, là, on vient d'en parler de certains temps durs, là, on ne sait pas comment ça va être ici au Québec, mais il va y avoir des temps durs. Voici les exhortations du Seigneur pour ceux qui l'attendent. Et ce que je vous dis là, c'est vraiment ce que Dieu me dit. Dieu me dit de le dire. Je sais que c'est enregistré et c'est sur Internet, il y en a d'autres qui vont le lire. J'espère qu'il y en a plusieurs qui vont lire les avertissements du Seigneur, parce que Dieu, là, on ne pourra pas dire, « Oh, tu ne me l'as pas dit. » Oui, il nous l'a dit. « Ouais, mais quand tu l'as dit, ben, t'as-tu écouté quand que le pasteur prêchait? » Il prêche les vérités. Moi, ce n'est pas ce que je dis qui compte, là, c'est les versets que je vais dire qui comptent. Les versets, c'est la parole de Dieu éternel. Puis ça, il faut les écouter. Jésus nous encourage, là, puis on nous encourage pas, ah ouais, vas-y, let's go, t'es capable. C'est pas de même qu'on n'a pas encouragé. En lui disant quoi faire. Là, faut que tu fasses ça, puis faut que tu fasses ça. Faut que tu sois, il est de même, Jésus. Il nous a dit ça comme cela. Il nous dit, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ouais, mais si Dieu est tout dans ses mains, non. Même s'il y a tous les grands événements dans ses mains, même s'il y a votre vie dans ses mains, il nous demande à nous, veille et prie si tu veux être sûr que tu vas te rendre jusqu'au bout. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Là. C'est comme si notre salut, oui, Dieu a tout accompli, mais ça dépend de nos décisions aussi. On a décidé, voilà, X années, d'accepter Jésus, c'était parfait. On a décidé de le suivre, mais ça va arriver ce moment-là, on va-tu être encore dans la même attitude de « j'ai encore décidé de suivre Jésus, puis je suis en train de le suivre » ou si on s'est relâché, on s'est laissé aller, on a eu peur, on s'est sauvé, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Lui, il est prêt à nous garder, mais nous, on est-tu prêt à faire tous nos efforts pour se rendre? Là, il nous dit dans le verset, Luc 21:34, on commence par l'idée, prenez garde à vous-même. Jésus, quand il parle de cela, il est en train de parler des événements de la fin. Il parle à ses disciples qui vont être là à la fin. Donc, il ne parla pas aux 12 apôtres qui étaient là, là. Il nous parla à nous aujourd'hui dans cette phrase-là. Parce que c'est nous qui sommes ici aujourd'hui, dans cette période-là de la fin. Il est en train de nous parler direct. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour, le jour où Jésus va revenir, ne vienne sur vous à l'improviste. Ça veut dire où il va arriver sur toi et tu n'es pas prête. Pourquoi tu n'es pas prête? Il parle à des gens qui ont déjà accepté Jésus. Ils sont pas prêtes parce qu'ils sont laissés apesantir. Ça veut dire quoi, apesantir? Oh là là, t'es rendu pesant, t'as plus de foi, t'es écrasé parce que t'as trop mangé, trop bu. Parce que le fait de manger, je parle pas, c'est ça, c'est pas juste la nourriture dans le sens, on mange, faut manger pour survivre. Mais quand on mange trop, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On est fatigué. Hein? Ça nous, c'est ça, être rendu fatigué de la vie. Parce qu'on pense qu'à la vie, les choses matérielles, les choses humaines, manger, boire, on est sur une party. Mais pendant qu'on fait ça, on ne se rend pas compte que spirituellement, notre force, elle diminue. Puis si on est de même à l'année longue, même que Jésus revienne, on ne sera pas prêts, ça c'est sûr. Parce qu'un chrétien, là, ça marche dans le combat. Il jeûne, il prie, hein? Un chrétien, ça lit la Bible, c'est alerte, il sait qu'est-ce qui s'en vient, puis il veut rester connecté, il veut rester bouillant, il veut rester être en train de servir Dieu. Ça, un chrétien, c'est de même. Mais le contraire, c'est penser qu'à manger et à boire, à faire de party, et aussi, il parle d'une autre affaire, les soucis de la vie. Toutes les casse-têtes qu'on va avoir, parce que là, les temps vont être durs, là. On va être dans persécution, on va être dans des guerres, des cataclysmes qui vont arriver. Jésus parle d'étoiles qui vont tomber sur la terre dans ces cataclysmes-là, de tremblements de terre graves. Puis là, on le voit qu'il y en a de plus en plus, des tremblements de terre puis des gros. Il y a des choses qui arrivent qu'on voit que c'est pas normal. Le changement géographique, pas géographique, mais climatique. Il y a changement de température, les pôles nord qui font. Il va y avoir des conséquences, là, ça loge pas. Il va y avoir toutes sortes d'affaires. Comme qu'a dit Jésus, un entre autres, il dit qu'il va y avoir une augmentation du niveau de la mer. Puis les hommes vont avoir de l'angoisse parmi les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. C'est une autre prophétie que la fonte, elle arrivera, le niveau, il va monter. Puis tout le monde angoisse, pas tout le monde, mais beaucoup de monde angoisse pour ça, qui se demande quoi faire. Des barrages au printemps, des barrages que les humains ont fait, ils pètent parce qu'il y a trop et pas d'eau, des villes qui sont inondées. Toutes sortes d'affaires qui n'arrivaient pas avant comme cela. Là. On arrive dans une période où il y en a de plus en plus. Il faut vraiment avoir les yeux de même pour ne pas voir ce qui se passe. Il y a des affaires qui arrivent. Puis ça énerve. Ça énerve, ça change notre confort quand on est habitué d'une routine. Juste le fait de dire qu'on est obligé de rester à la maison pendant la période des fêtes, ça énerve, c'est un souci de la vie. Puis il dit, prenez garde d'être appesanti par cela. On se laisse décourager. Oh non, encore ça. Oh. Puis là, on entend d'autres choses. Oh non. Puis là, les nouvelles, c'est rien que des mauvaises nouvelles. Oh non, ils sont rendus à 50 morts, 60 morts là, par jour. Là, il y a toujours des choses, des soucis de la vie qui peuvent nous appesantir en tant que chrétiens. Puis Dieu veut pas qu'on se laisse appesantir. Il veut pas qu'on se laisse écraser par ce qui se passe autour, parce qu'on devrait être fortifié par ce qui se passe en l'air. C'est Dieu qui est notre force. Puis lui, ça change pas. C'est là qu'il faut rester nos yeux, puis penser à lui, puis espérer en lui, avoir confiance en lui. Peu importe ce qui arrive là, moi, c'est qu'est-ce qui arrive ici qui est important. Garder le contact. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples de prendre garde de ne pas s'apesantir, pour pas être prête. Ça veut dire qu'il y a une possibilité qu'un chrétien sauvé, né de nouveau, qui fasse pas partie de l'enlèvement parce qu'il est apesanti. Ouais, mais le salut se paie pas. C'est pas vrai que ça se paie pas. Arrêtez de penser ça. Il y a plein de passages. Il y a 80 passages qui disent que le salut peut se perdre. 80 dans le Nouveau Testament. Je pourrais vous sortir la liste. Ben, elle est dans ma Bible, parce que c'est pas moi qui l'a faite, la liste, là. Elle est écrite dans ma Bible par le docteur en théologie qui a mis des commentaires dans ma Bible. Fait qu'il va arriver, faut être prête, faut... C'est pour ça que je vous le dis que c'est Jésus qui m'a dit, qui m'a montré qu'il fallait que je vous annonce là. Ça fait partie des signes des temps, puis on est rendu là, puis ça prend du monde préparé. Puis là, il continue dans le même paragraphe. Là, il nous demande de prier. De prier pour avoir la force du Saint-Esprit afin de résister dans tous ces problèmes-là qui vont arriver. Ça nous dit, au chapitre 21, Luc 21, le verset 35 et 36, « Car, là, il parle du retour de Jésus, il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. » Puis là, il dit, « Veillez donc et priez. » Veillez, ça veut dire ne pas se laisser apesantir, ne pas se laisser écraser. Veillez, c'est le contraire d'être endormi. Tu veilles, tu t'es garde, tu sais que ça s'en vient. Puis là, tu es réveillé. Veille, mais c'est pas suffisant d'être réveillé. Il faut que tu sois une personne qui prie. Excusez. Il faut être une personne qui prie. Tu peux pas dire que tu es prête si tu pries pas aujourd'hui. Si tu n'as pas prié hier, si tu n'as pas prié avant-hier, tu peux pas te penser prête. Parce que c'est dans la prière que tu vas chercher la présence de Dieu et tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu pries pas pendant un an, mais faut pas penser que tu es prête à l'enlèvement. Tu n'es pas prête, tu es la Vierge sans huile. C'est pas des farces. La Vierge... La différence qu'il y avait entre la Vierge avec de l'huile et la Vierge qui avait pas d'huile, c'est que sa lampe, elle allume pas parce qu'elle n'a pas d'huile. Puis l'huile, là, c'est représenté par le Saint-Esprit. C'est ça qui alimente le feu. Si tu veux être en feu pour Jésus, là, puis par Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Puis c'est en prière que tu vas chercher ça. Si tu pries, faut apprendre à prier. Si on prie pas, faut apprendre. Parce que faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, faut que tu sois connecté quand il va revenir. Parce que s'il arrive et il te trouve loin, éloigné de lui, parce que tu n'es pas connecté, mais tu ne participeras pas à l'enlèvement, puis tu es fait. C'est pour ça que Jésus veut qu'on se prépare. Il dit veille et prie en tout temps. Ça veut dire relâche-toi jamais de prier afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Il parle de toutes les cataclysmes que je vous ai mentionnés. Puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. La journée que Jésus arrive, il faut qu'on soit debout, spirituellement parlant. Réveillé dans l'onction du Seigneur. Faut que j'y aille vite, là, j'en rien. Mais... Ça va être un temps difficile à traverser pour l'Église. Dieu veut qu'on fasse un effort de persévérance dans ces moments-là qui vont arriver. Il y aura des chrétiens qui abandonneront la voie du Seigneur. On voit ça dans Matthieu 24, mais il y en a plein de versets. Matthieu 24, encore dans le temps qu'il parle des signes, là, au verset 12 et 13, il dit « Parce que l'iniquité, le péché se sera accru, ça c'est dans l'Église, la charité du plus grand nombre se refroidira. » On parle pas du monde pour la charité. La charité, c'est produit par le Saint-Esprit, c'est dans l'Église. Le péché va augmenter dans l'Église, puis c'est ce qu'on est en train de voir avec les églises œcuméniques, les églises qui... Je vous nommerai pas tous les péchés qui sont en train de se faire présentement, mais que nous autres, on veut pas rien de cela. Le péché, il est dans l'Église aujourd'hui, puis le monde, il accepte tous les péchés parce qu'ils veulent plus de monde, ils veulent montrer qu'ils n'ont pas rien contre personne, puis ils pensent plus à être des représentants de Dieu, puis des représentants de la parole de Dieu, puis de rester fidèles dans la parole. Fait que là, les églises se refroidissent, il n'y a plus la charité qui est produite par le Saint-Esprit, n'est plus là. C'est des religions maintenant. Ceux qui sont rendus à ces niveaux-là, là, ça devient religion. Puis ça dit, Jésus il dit... Parce que l'iniquité va s'accroître, la charité va du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que Dieu, Jésus, il exhorte le monde à dire, lâchez pas, persévérez en quoi? Persévérez dans l'obéissance à la parole. On est des représentants de la parole, puis on veut pas être dans l'iniquité, être classé dans ceux qui sont des ouvriers d'iniquité. Les ouvriers de péché, Si on le sait qu'on est dans le péché, il faut fuir le péché. Il faut résister au péché. Il faut chasser ça. De dénoncer les œuvres des ténèbres, puis de les abandonner. Il faut les abandonner. Il faut marcher dans la vérité, dans la sainteté. Le Seigneur nous avertit, puis cela, ça sert à nous maintenir en alerte et se préparer. Parce que même que ça arrive, ça va venir comme un filet à la surface de la terre. Tu jettes le filet, puis tous les poissons ils sont ramassés. L'enlèvement va être comme ça, aussi vite que ça. Puis le poisson qui était dans la map, puis lui, il s'en attendait pas. Bien, nous, pour être embarqués dans le filet, il faut qu'on s'en attende, puis être prêt. Parce que les autres vont passer à travers du trou du filet, ils vont rester là. C'est triste. Parce qu'il y en a qui ont marché pendant des bouts, puis qui se relâchent, sont apesantis, sont découragés, ils pensent même à lâcher, mais on n'est pas dans le pays du combat encore, là. Mais que ça s'aille pire, il faut être rempli de la force du Seigneur, avoir prié pour rester ferme. Puis il y a un autre avertissement, ce que le Seigneur a fait envers les chrétiens qui n'accomplissent pas leur mission personnelle, puis qui restent nus devant Dieu. Parce qu'on est tous appelés individuellement à des missions dans ce monde par Jésus. Là, on ne parle pas de ceux qui abandonnent Jésus, on parle de ceux qui sont restés dans la foi en Jésus. Mais est-ce qu'on sert le Seigneur, qu'on est en train d'accomplir la mission qu'il nous a demandé? Puis si on ne sait pas encore c'est quoi la mission, il est temps qu'on la demande. C'est pas mais qui viennent nous chercher qui va être le temps d'y demander. « Ouais, c'est quoi je t'ai supposé de faire, moi, sur la terre, pour toi, Seigneur? » Il faut le savoir déjà et être en train de le faire. Regardez bien comment est-ce qu'il dit ça. Dans Apocalypse 16, 15, il dit « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements puis qui ne marche pas nu afin qu'on ne voit pas sa honte. » On est en train de veiller? Moi, je suis prêt, je suis dans l'action pour le Seigneur, je sais le Seigneur. Puis là, je pourrais vous énumérer tout ce qui pourrait être fait, mais il y a encore plus que ça de ce qui peut être fait. Tout ce qui peut être œuvre que Dieu nous demande dans sa parole, puis il discerne avec la force que tu as. Fais ce que tu as à faire. Dieu t'a donné des capacités, t'a donné des dons. Puis si t'es pas sûr, demande-y, puis sois à l'écoute de sa voix parce que Dieu parle. Dieu parle. Il me met à cœur des choses. Embarquez dans ce qu'il vous demande. Sinon, on va arriver l'autre bord, puis il y en a qui vont être sauvés, mais ils vont être tout nus. Parce que ce qui va nous recouvrir, j'en ai parlé, c'est les œuvres justes des saints. Nos vêtements, c'est nos œuvres justes. Nos œuvres qu'on aura faites en tant que chrétien. Pour nous garder alerte, Dieu nous dit, lisez la Bible, méditez-la, gardez les paroles prophétiques. On voit ça dans Matthieu 24, le verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parlait le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que tous les chrétiens devraient être en train de lire la Bible. Que celui qui lit, parce que tu lis que c'est écrit. Il dit, quand vous allez voir ce qui a été écrit, là, ce que le prophète Daniel a parlé, ça veut dire, faut aimer même lire l'Ancien Testament. Quand vous verrez les choses s'accomplir, il dit que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que les chrétiens devraient lire la Bible. Au moins l'écouter. Tu l'as en audio. Si on a de la misère à lire, mais j'encourage à lire, ça reste plus. Moi, je fais les deux. Je prends du temps pour lire, puis j'écoute parce que j'ai mon Bluetooth, puis mon téléphone, il y a des bibles audio, tu peux écouter. Puis si ça vous dit que vous voulez l'avoir, mais je vais vous donner les trucs pour aller chercher ça, pour que vous puissiez écouter la Bible, prendre du temps chaque jour. Lire la Bible, là, c'est notre « daily bread ». C'est notre pain quotidien. Quand Jean-Jésus dit dans la prière du Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il ne parle pas de la nourriture physique, là. Il parle aussi de la nourriture spirituelle. Jésus a dit, l'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les versets de la Bible sont une nourriture pour le chrétien. Si tu veux être prêt, veillant, puis en ayant de la force, allez demander à un gars d'aller pelleter un 10 roues de roche quand ça fait 2 mois qu'il n'a pas mangé. Faut que tu manges à tous les jours, ça te maintient dans l'énergie que tu as besoin. Pour le moment où tu vas aller pelleter, tu as l'énergie. Mais la Bible, c'est la même affaire. C'est notre nourriture, notre pain quotidien. Faut lire la Bible, frères et sœurs. Se nourrir des paroles qu'il y a là. Mais l'autre verset, il va encore un petit peu plus loin que juste lire. Mais déjà, lire, là, il dit, si tu lis et tu t'aperçois de quelque chose, il dit, fais attention. Sois sur tes gardes. Tu viens de lire que ça va s'accomplir, là. Fait que faut que tu sois alerte puis vigilant puis faire ce que tu as à faire, ce qui doit être fait. Mais, pour continuer l'idée, il va y avoir des souffrances dans cette période-là, mais le fait de voir les prophéties s'accomplir, cela nous rendra heureux. On va être heureux quand on sait que ça s'en vient. On sera pas apesanti, puis découragé, puis abattu. Tu vas avoir une force spirituelle qui va t'animer. Tu vas être content que les choses se mettent en place, parce que tu sais que Jésus s'en revient. Il nous dit ça dans l'Apocalypse 1, le verset 3, qui dit « Heureux celui qui lit ». Encore une fois, c'est répété. « Heureux celui qui lit ». Lire quoi? Lire la Bible. Lire même plus précisément les prophéties, parce que c'est écrit dans l'Apocalypse, ce verset-là. « Heureux celui qui lit ». Et ceux qui entendent les paroles. Tu lis, là, tu apprends des affaires, là, tu es en train d'entendre. Quand les lumières s'allument, là, puis tu comprends ce que tu lis, là, les lumières s'allument, c'est Dieu qui t'en donne une nourriture spirituelle. Ça t'allume. Là, tu entends les paroles, puis qui garde les choses qui sont écrites. Ça veut dire que tu y penses à ces affaires-là. C'est pas que ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre, puis tu as tout oublié. Ça rentre, tu comprends, puis t'es garde, tu médites ces choses-là, tu réfléchis. Jésus a dit ça, Jésus a dit ça. Puis là, tu commences à penser à tout l'ensemble pour ajuster ta vie face à ce que tu lis puis ce que tu comprends. Il faut qu'un chrétien rentre dans cela s'il va avoir la force de se rendre jusqu'au bout. Fait que ça prend de la prière, puis ça prend de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum pour rester debout quand Jésus va revenir. Puis après ça, il dit, mal en pratique. Là, je vous finis avec la dernière idée. Dieu, il est fidèle, puis Jésus a promis d'être avec nous, puis il a promis d'arriver bientôt. Jésus a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La fin arrive, là. Jésus est là. Fait qu'il va arriver des affaires autour. Il dit, laisse-toi pas apesantir par les affaires autour. Je suis là. Jésus est là. Puis ce qu'il nous dit, c'est, je reviens bientôt. Fait qu'il pense à nous tout le long, le Seigneur, parce qu'il est au haut là. Restons avec le Seigneur. Persévérons. Lâchons pas. C'est peut-être le dernier message, là. Mettons, s'il mène à la pandémie, il dit qu'il n'y a plus d'église, là, pendant 1 mois, puis après ça, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça peut arriver qu'on ait encore des longues périodes avec rien. Il faut vous continuer à vous maintenir debout spirituellement en lisant la Bible puis en priant. Amen. Si vous voulez rester debout, puis continuer à rester connecté avec les gens, un petit coup de téléphone, n'importe quoi. Il y a des gens qui on se fortifie quand on parle des choses du Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour toutes les choses que tu nous montres pour qu'on se prépare, qu'on reste debout, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Je te demande de nous fortifier par ton Saint-Esprit. Pardonne tous nos péchés, Seigneur, et purifie ton peuple, Seigneur, par le sang de Jésus. Donne-nous, Seigneur, chacun d'être rempli, revêtu, équipé de ta force pour être capable de passer à travers de tout ce qui doit arriver pour qu'on soit debout lorsque tu reviendras. Je te demande, Seigneur, aussi de nous donner une fin de ta parole. qu'on peut s'en nourrir de ta parole, lire la Bible, la méditer, garder paroles prophétiques, qu'on se fortifie dans les choses, puis tu nous dis que tu vas nous rendre heureux. Merci, Seigneur. Merci de ce que tu es en train de faire, puis merci de ce que tu feras dans la suite. On remet nos ventres à tes mains, dans le nom de ton feu, Jésus. Amen. Amen.